Le journal, présenté par Lise Verbeek.
Bonjour à toutes et à tous. Les regards seront tournés vers Moscou aujourd'hui à 17h. Des millions de paires d'yeux en réalité pour l'un des événements sportifs les plus suivis de la planète. La finale de la Coupe du Monde de football au stade Loujniki. Alors cela ne vous aura pas échappé, la France affronte la Croatie pour tenter de ramener le trophée doré. Et chaque matin, nous vous proposons d'écouter une voix de France Culture. Pour cette dernière, le comédien François Berléand nous raconte sa passion du ballon rond et il compare cette passion avec son amour pour Louis de Funès.
Quand j'étais gamin, 20 ans, 22 ans, 24 ans, j'étais un fou de Louis de Funès jusqu'à sa mort, puis même après. Mais vraiment, j'étais le seul, j'étais en théâtre subventionné à l'époque. C'était pas bien de dire qu'on aimait Louis de Funès, je ne le disais pas, je l'aimais en cachette. Après, Louis de Funès a fait la coupe de Télérama. Et ben, le football, c'est pareil. Tant qu'il n'y avait pas eu la victoire en 98, c'était pas de bon ton d'aimer le football dans le milieu des intellectuels. Un artiste, je ne sais pas si vous, un philosophe, je ne suis pas sûr que ce soit, il y a beaucoup de philosophes qui aiment le foot maintenant aussi. Mais il a fallu que Finkielkraut dise qu'il aime le foot pour qu'on commence à dire ben, si Finkielkraut l'aime, peut-être effectivement, si Cohn-Bendit aime le foot, voilà, tout à coup, bon ben voilà, il y a quelques jours, il y a une ouverture possible, on peut le dire. On peut dire enfin qu'on est, on est plus honteux, quoi, pour le fait d'aimer le football.
Le comédien François Berléand, débarrassé donc de toute honte, qui va suivre la finale cet après-midi France-Croatie, comme des millions d'autres en France et ailleurs, et comme Emmanuel Macron, qui se rend à Moscou pour assister au match dans les tribunes. Et composer l'avion présidentiel n'a pas été une mince affaire, Cyril Gradiani.
Cette fois, l'Élysée n'a pas commis d'impair. Pour la demi-finale mardi, Emmanuel Macron avait invité Jean-Pierre Papin et Guy Roux, sans savoir que les deux hommes entretenaient des relations glaciales. Les mettre ensemble dans un même avion avait fait sourire les spécialistes du ballon rond. Cet après-midi, seul JPP sera à nouveau du voyage. Avec l'ex-buteur de l'OM dans le Falcon présidentiel, deux grands absents de la Coupe du Monde, Laurent Koscielny et Dimitri Payet, blessés avant le Mondial, iront soutenir leurs coéquipiers. Emmanuel Macron a également invité un militaire français blessé en opération en Afrique et son épouse. Le chef de l'État qui a son programme n'a pas que cette finale, mais également un tête-à-tête juste avant avec Vladimir Poutine. Certainement pas pour parler foot, le cas Oleg Sentsov, ce réalisateur ukrainien condamné à 20 ans de prison et actuellement en grève de la faim, sera évoqué par Emmanuel Macron. De sources diplomatiques, on annonce que le chef de l'État proposera à son homologue russe ou de ramener Sentsov, ou de pouvoir envoyer des médecins en Russie.
Les précisions de Cyril Gradiani. Les balles sifflées au-dessus de nos têtes, l'un des témoignages glaçants d'un étudiant à Managua, au Nicaragua. Lui et 200 autres étaient retranchés dans une église de la capitale quand ils ont été délogés violemment hier par les forces pro-gouvernementales. Deux étudiants sont morts. La liste des victimes ne cesse de s'allonger dans le pays depuis 3 mois, depuis le début de la contestation réclamant la démission du président Ortega. L'opposition l'accuse d'avoir mis en place une dictature dans le pays et demande des élections anticipées. En Irak, les mouvements de contestation sociale gagnent du terrain. La grogne est partie de la ville pétrolière de Bassora il y a une semaine. L'ampleur du mouvement est telle que les autorités ont décrété un couvre-feu hier soir dans la ville. 2 personnes sont mortes dans cette province irakienne proche de l'Iran. Les manifestants dénoncent la corruption et la déliquescence des services publics, notamment en matière d'alimentation en électricité et en eau. Et ce qui fait durer le mouvement de contestation, selon Hasni Abadi, directeur du Centre d'études et de recherche sur la Méditerranée, et le Moyen-Orient, eh bien c'est la réponse de fermeté du gouvernement.
Il s'agit surtout d'un mouvement de contestation sociale et de revendication d'ordre économique. C'est une région qui est riche et prospère. La région qui est proche des frontières iraniennes, comme la région proche du Koweït. Il faut rappeler que Al-Bassora, c'est tout de même le berceau de l'industrie pétrolière. Et les habitants de toutes ces provinces irakiennes, depuis un certain moment, ont manifesté leur désaccord contre les politiques du Conseil général de Al-Bassora et l'incapacité du gouvernement fédéral, du gouvernement de Bagdad, à répondre positivement à la contestation. Mais ce qui a enflammé la population, et à mon avis grossi les rangs des manifestants, c'est la réponse policière, disproportionnée, radicale, au nom de la lutte contre le terrorisme et contre l'État islamique, les Irakiens ont soutenu les gouvernements irakiens successifs et aussi les gouvernements de certaines provinces, notamment à l'Anbar. Aujourd'hui, l'État islamique vaincu, c'est le gouvernement lui-même qui le dit, il y a des nouveaux défis. Les Irakiens découvrent que le gouvernement n'a pas fait grand-chose et c'est pourquoi ces manifestations montrent un grand désaveu à la fois pour la classe politique dirigeante, c'est-à-dire le gouvernement de Monsieur Abadi, mais aussi pour certains partis politiques qui ont soutenu ces manifestations, qui ont même appelé à manifester, dont Monsieur Muqtada Sadr, qui aujourd'hui est un homme politique important, incontournable, puisqu'il est consulté régulièrement pour la formation du nouveau gouvernement.
Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur la Méditerranée et le Moyen-Orient, joint par Nabila Hamel. Pour terminer ce journal, nous reparlerons du football, pas sur le terrain, mais sur le marché des transferts, marché qui génère chaque année des millions d'euros. Et en Italie, un transfert fait bondir les ouvriers de Fiat. Cristiano Ronaldo quitte le club du Real Madrid pour la Juventus de Turin. Un transfert à plus de 100 millions d'euros. Et si les ouvriers de Fiat réagissent, c'est parce qu'ils partagent le même actionnaire que le club, la famille Agnelli. Ils appellent Mathilda Berti à cesser le travail ce soir.
Que sont 100 millions d'euros face au sacrifice des ouvriers de Fiat? La démonstration d'une évidente iniquité, selon le syndicat USB de l'usine de Melfi, l'une des plus grandes du groupe automobile situé dans le sud de la Botte. L'actionnaire majoritaire de Fiat Chrysler, la famille Agnelli, est aussi propriétaire du club de Turin. Voici ce qui relie les 8000 travailleurs de l'usine italienne au quintuple Ballon d'Or. Ce transfert mirobolant a déjà cette semaine, mercredi, motivé une protestation devant un autre établissement Fiat, celui de Pomigliano près de Naples, touché par le chômage partiel ces dernières années.
Comment Fiat a pu se payer Ronaldo 100 millions d'euros? C'est 10 ans de chômage technique ici. Un ouvrier ne gagne pas plus de 1000 euros par mois. C'est inadmissible.
Le syndicat qui appelle à la grève est minoritaire. Il cherche à attirer l'attention, commentent les autres organisations syndicales. L'appel à cesser le travail démarre ce soir, sans que cela modifie le programme de la star. Ronaldo, attendu demain à Turin pour une présentation en grande pompe.
Un temps estival pour ce dimanche. Un grand soleil brillera sur toute la France. Quelques orages sont attendus dans le sud-ouest et dans l'est. Pour les températures, il fera entre 20 et 30 degrés cet après-midi.